Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Med Résistance. Une nouvelle émission du cycle réforme économique et réforme fiscale que j'ai lancée il y a quelques semaines, sous les auspices justement des remises en question actuelles du gouvernement autour des nécessaires réformes économiques et fiscales et bien entendu de la future réforme constitutionnelle. Tout le monde sait qu'en France, cette année, ça a quand même bougé, qu'il y a eu des revendications plus marquées que d'autres. En France, on a toujours eu des tas de revendications, mais cette année, elles ont été particulièrement marquées. Le mouvement des Gilets jaunes a été particulièrement virulent le jour du 1er mai. Alors, bien entendu, je passe sur les émeutes et la violence, qui ne sont pas des choses louables, mais on se doit quand même de tenir compte des revendications qui en ressortent. Et donc, je trouve que c'est intéressant, surtout qu'il va aussi y avoir bientôt les élections européennes. Donc, c'est une bonne opportunité pour réfléchir à tout ça, puisque nous sommes en période de réforme. Alors, la dernière fois, nous avons parlé du revenu inconditionnel d'existence, un revenu de 800 euros par mois par individu de la naissance à la mort, et des conséquences que ça pouvait avoir sur la vie des uns et des autres, leur possibilité de choix de vie, et sur la création de richesses également, mais également sur les modifications en profondeur de la structure même de notre économie, qui verrait davantage privilégier les petites et moyennes entreprises plutôt que les grandes entreprises. Je vous invite à écouter les émissions précédentes qui sont en podcast. J'avais parlé, il y a deux émissions, d'une idée d'un impôt sur le revenu qui serait payé par tous, qui serait égalitaire. Je vais commencer en introduction à cette émission d'aujourd'hui à évoquer quelqu'un qui a été ministre, mais il y a assez longtemps, c'était sous Louis XIV, au XVIIIe siècle. Il a été un ministre très connu, on le connaît beaucoup, il a fait beaucoup pour l'architecture française, puisque c'était à la fois un économiste, un fiscaliste, mais aussi également un grand architecte. Il s'agit de Sébastien Leprest Vauban. Plus précisément, Sébastien Leprest de Vauban. Donc Sébastien Leprest de Vauban, c'était bien entendu un bourgeois, il n'était pas noble, mais c'était un excellent ministre. Et très peu d'entre nous ne connaissent pas au moins une ou plusieurs fortifications militaires qui sont répandues un petit peu partout sur le territoire français, qui nous rappellent qu'il existe quelque part un génie français qui n'est pas que militaire, qui consiste aussi à défendre son territoire et à savoir observer correctement ce qui se passe. Et là-dessus, les forteresses Vauban sont de véritables merveilles architecturales qui permettent de scruter tous les environs sans laisser de côté un centimètre carré. Dans beaucoup de forteresses Vauban, on remarque ça, il suffit de monter dans une de ces forteresses et de jeter un coup d'œil par les ouvertures pour se rendre compte que ça a été calculé de façon à ce qu'il n'y ait pas un centimètre carré de terrain et très loin géographiquement qui n'échappe au regard de l'observateur. C'est comme ça qu'on devrait normalement qualifier notre système fiscal et économique français. Il devrait pouvoir observer l'intégralité de son territoire de façon à ne pas laisser un seul individu dehors ou en état de difficulté. Donc Sébastien Leprest de Vauban était d'ailleurs aussi un fiscaliste. Il avait un projet, il avait à la fin de sa carrière, il a écrit un livre qui s'appelait « Projet d'une dîme royale ». Alors on sait que la dîme, c'était un impôt très important. On sait que ces impôts-là, que payait surtout le tiers-état, les nobles ne payaient pas d'impôts et le clergé non plus. Donc seule toute l'assiette de l'imposition censée alimenter les caisses de l'État et toutes les dépenses de l'État reposaient bien entendu sur le tiers-État, c'est-à-dire les pauvres, les paysans. Et le livre de Sébastien Leprest de Vauban est excellent. Il est très contemporain aussi et je vais vous en lire un extrait parce qu'il a exactement... Il développe les mêmes idées que ce que nous déployons il y a 15 jours dans notre émission, lorsqu'on parlait de l'imposition sur le revenu, qui serait valable pour tous les revenus sans exception, dans le contexte d'une mise en place du revenu inconditionnel d'existence, bien entendu, sans aucune autre allocation. Et il toucherait tous les revenus liés à l'activité ou au travail, ou à la propriété, ou au patrimoine, et avec un taux égal pour tous, c'est-à-dire que au moindre euro touché, on paierait déjà 10% de cet euro gagné. On reverserait 10 centimes à l'État et il n'y aurait pas d'exception. Et donc, je disais, je pense que ce serait beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus accepté par les Français que le système actuel qui est perçu comme quelque chose d'injuste, consistant à taxer avec un taux plus important ceux qui ont les plus hauts revenus. Et parce que souvent, c'est perçu comme injuste. Les gens qui sont entre deux tranches d'imposition trouvent ça injuste aussi parce qu'en fait, finalement, ils payent plus d'impôts que celui qui est en dessous de la tranche, que celui qui est juste en dessous de la tranche en gagnant à peu près la même chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai vu cet extrait d'article, cet extrait du livre de Sébastien de Vauban il n'y a pas longtemps. Et donc, je me suis dit, je vais le lire à mes auditeurs. Alors, faut savoir une chose, c'est que ce livre, il a été interdit. Le roi Louis XIV n'a pas voulu le publier, en fait. Et il faut savoir aussi que à l'époque de Louis XIV, Louis XIV faisait de grosses dépenses, à la fois pour juguler les quelques restes de féodalité qui étaient encore là malgré la répression liée à la Fronde, lorsque Louis XIV avait 14 ans. Et puis, donc ça lui a fait dépenser beaucoup d'argent parce qu'il a dû donner des pensions aux nobles. Et pour les obliger à rester à la cour et pour qu'ils soient dépendants de lui, afin que plus jamais les seigneurs des terres provinciales ne se révoltent contre la monarchie. Et donc, ça a coûté très cher. Ce qui a coûté cher aussi, c'est bien entendu le château de Versailles, il faut bien le reconnaître. Et toutes les fêtes qu'il y avait là-bas, ainsi que toutes les installations, notamment les jardins et les fontaines. Et puis, le plus cher de tout, ça a été bien sûr les nombreuses guerres que le roi Louis XIV a menées. Donc, on se replace dans le contexte de l'époque. Le peuple se voit soumis à une taxation de plus en plus lourde. À cette époque-là, on est en 1703. Sébastien le Prestre de Vauban vient juste d'être nommé maréchal de France et il a pris sa retraite. Et il est horrifié par les injustices de la société où nobles et clergés sont dispensés de payer l'impôt, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis en plus, en 1693-1694, c'est-à-dire 9 ans auparavant, il y avait eu une crise de subsistance, une famine qui avait causé des milliers de morts. Et il dit « Il ne faut pas se flatter. Le dedans du royaume est ruiné, tout souffre, tout pâtit et tout gémit. » La pauvreté, écrit-il, ayant souvent excité ma compassion, m'a donné l'idée d'en rechercher la cause. À la fin de la préface de son projet d'une dîme royale, de son livre, il résume ainsi sa philosophie. Il existe une obligation naturelle au sujet de toute condition de contribuer à proportion de leurs revenus ou de leur industrie sans qu'aucun d'eux s'en puisse raisonnablement dispenser. Pour lui, le fait de ne pas payer d'impôts est injuste et abusif. L'impôt ne doit être ni trop faible pour ne pas pénaliser l'action de l'État, ni trop fort pour ne pas handicaper l'économie, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Le système de Vauban, c'est un impôt direct sur le revenu, payé par tous, parce que c'est le plus efficace. Soit, et là, tenez-vous bien, exactement le même taux que ce qu'on avait préconisé il y a 15 jours, un prélèvement systématique sur la production à un taux variant de 5 à 10%. C'était une sorte de contribution sociale généralisée avant l'heure. Il supprime la gabelle, ce vieil impôt sur le sel qui n'a plus de fondement économique, et propose la mise en place d'autres formes d'impôts. Alors bien entendu, à l'époque, les gens n'étaient pas contents, surtout les nobles, qui n'avaient pas l'habitude qu'on leur dise qu'il fallait qu'ils payent des impôts. Alors là, je vais vous lire un extrait direct dans le texte de Sébastien Lepresse de Vauban. Le texte s'appelle « Il est raisonnable que tous contribuent aussi selon leurs revenus ». Par toutes les recherches que j'ai pu faire depuis plusieurs années que je m'y applique, j'ai fort bien remarqué que, dans ces derniers temps, près de la dixième partie du peuple est réduite à la mendicité et mendie effectivement. Que des 9 autres parties, il y en a 5 qui ne sont pas en état de faire l'aumône à celle-là parce qu'eux-mêmes sont réduits à très peu de choses près à cette malheureuse condition. Que des 4 autres parties qui restent, les 3 sont fort malaisées et embarrassées de dettes et de procès, et que dans la 10e où je mets tous les gens d'épée, de robe, ecclésiastique et laïque, toute la noblesse haute, la noblesse distinguée, les gens en charge militaire et civil, les bons marchands, les bourgeois rentiers et les plus accommodés, on ne peut pas compter sur 100 000 familles. Et je ne croirais pas mentir quand je dirais qu'il n'y en a pas 10 000, petites ou grandes, qu'on puisse dire être fort à leur aise et qui en noteraient les gens d'affaires, leurs alliés et adhérents, couverts et découverts, et ceux que le roi soutient par ses bienfaits, quelques marchands, etc. En effet, l'établissement de la dîme royale imposée sur tous les fruits de la terre, d'une part, et sur tout ce qui fait du revenu aux hommes, de l'autre, me paraît le moyen le mieux proportionné de tous. Parce que l'une suit toujours son héritage qui rend à proportion de sa fertilité, et que l'autre se conforme aux revenus notoires et non contestés. C'est le système le moins susceptible de corruption de tous, parce qu'il n'est soumis qu'à son tarif et nullement à l'arbitrage des hommes. C'est celui de tous les revenus qui emploie le moins de gens à sa perception, qui cause le moins de frais et qui s'exécute avec le plus de facilité et de douceur. C'est celui qui fait le moins de non-valeur ou, pour mieux dire, qui n'en fait point du tout. Les dîmeurs se payent toujours contents de ce qui se trouve sur le champ dont on ne peut rien lever qu'ils n'aient pris leurs droits. Et pour ce qui est des autres revenus différents des fruits de la terre, dont on propose aussi la dîme, le roi pourra se payer de la plus grande partie par ses receveurs. Comme tous ceux qui composent un État ont besoin de sa protection pour subsister et se maintenir chacun dans son état et sa situation actuelle, il est raisonnable que tous contribuent aussi, selon leurs revenus, à ses dépenses et à son entretien. C'est l'intention des maximes mises au commencement de ces mémoires. Rien n'est donc si injuste que d'exempter de cette contribution ceux qui sont le plus en état de la payer, pour en rejeter le fardeau sur les moins accommodés qui succombent sous le fait, lequel sera d'ailleurs très léger s'il était porté par tous, à proportion des forces de chacun, d'où il suit que toute exemption à cet égard est un désordre qui doit être corrigé. Après beaucoup de réflexions et d'expériences, il m'a paru que le roi avait un moyen sûr et efficace pour remédier à tous ces maux, présents et à venir. Ce moyen consiste à faire contribuer un chacun selon son revenu aux besoins de l'État. Mais d'une manière aisée et facile, par une proportion dont personne n'aura lieu de se plaindre, parce qu'elle sera tellement répandue et distribuée que, quoi qu'elle soit également portée par tous les particuliers, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, aucun n'en sera surchargé, parce que personne n'en portera qu'à proportion de son revenu. Voilà, c'était donc de Sébastien le Prestre de Vauban, un extrait de son livre écrit en 1707, Projet d'une dîme royale, il s'agissait ici de la préface. Donc moi aussi, je pense la même chose, je pense qu'un impôt revenu sur le revenu qui soit le même pour tous et qui taxe tous les revenus sans aucune conditionnalité, sans aucune exception, il n'y a que cela qui peut nous réconcilier les Français avec leur système fiscal, avec lesquels ils sont fâchés, lequel ils sont fâchés depuis longtemps. Un système fiscal par ailleurs fort malmené puisqu'il est sujet à des réformes incessantes, des retours en arrière, on ne sait jamais comment faire pour que tout le monde soit content. Si on dit à tout le monde « vous payez 10% de ce que vous gagnez », personne n'aura rien à dire. Voilà. Et puis, pour ceux, si en plus, ce qui est bien, c'est que si on donne à chacun un revenu d'existence, de 800 euros par mois et par individu, ça va augmenter les revenus, ça va permettre aux gens de choisir leur vie. Et on pourra se permettre de dire aux gens qui se plaignent de ne pas gagner assez bien leur vie et de devoir payer des impôts quand même, que s'ils veulent, ils peuvent toujours travailler davantage, soit passer des diplômes pour avoir un salaire plus important, ou alors monter leur entreprise. Ça, là, on pourra se permettre de lire ça, parce que ça sera devenu possible. Il y aura plus d'égalité et les gens auront plus de possibilités de choix. De choix de vie, refaire des études, ça deviendra plus facile. Donc cette modification de la fiscalité de l'impôt sur le revenu ainsi que la mise en place du revenu inconditionnel d'existence, ce sont déjà deux réformes qui peuvent vraiment bouleverser, changer vraiment nos perspectives de français, alors qu'on tâtonne depuis les années 80, depuis la crise, le début de du déficit de la sécurité sociale et la crise de notre système redistributeur. On n'arrête pas de faire des réformes, d'essayer de boucher les trous, et on n'arrive pas à trouver une solution. Là, nous aurions enfin la solution. Ce serait ça, ou alors, on laisserait gagner ceux qui veulent qu'en France, on soit dans un système capitaliste à tout va. Vous remarquerez que je ne parle pas de libéralisme ici, puisque mes théories et mes idées sont inspirées du libéralisme, c'est-à-dire du principe de la libre entreprise et de la liberté de chacun. Rappelons que tout comme le principe d'égalité dont nous avons beaucoup parlé la semaine dernière, le principe de liberté fait aussi partie de la devise républicaine et est aussi un principe constitutionnel contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi dans plusieurs articles de la Constitution. Et donc le libéralisme économique, ce n'est pas du capitalisme, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre souvent. On trompe les gens en leur faisant croire qu'on est dans un système libéral. On ressort le terme libéral ou libéralisme à toutes les sauces en nous faisant confondre ça avec du capitalisme pour nous faire croire que la persistance sur notre marché, à la fois sur le marché des biens et des services, mais aussi sur le marché du travail, de gros oligopoles, de grosses entreprises qui prennent toutes les parts de marché et qui seraient les seules à créer des emplois, qui seraient donc indispensables et dont on devrait payer tous les caprices sous ce prétexte-là, sous prétexte qu'il y a du chômage, qu'on nous fait croire que c'est du libéralisme, mais pas du tout, ça c'est du capitalisme. Il faut bien garder ça à l'esprit, et je pense que si on le comprend, on pourra mieux lutter contre les velléités de certains politiques qui travaillent pour justement ces grands monopoles et ces grands oligopoles, et qui ont été mis en place, qui ont été élus grâce à eux. Nous pourrions nous réapproprier la chose publique, notre économie d'abord, et ensuite par là même la chose publique, c'est-à-dire notre vie politique. Alors, nous avons quand même beaucoup parlé du revenu inconditionnel d'existence et évoqué toutes les mesures qui devraient le seconder. Il y en a d'autres, je voudrais simplement dire que revenir un petit peu dessus pour dire que c'est une mesure qui est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle peut largement contribuer à résoudre une problématique qui est la problématique des trois fléaux français, économiques français, contre lesquels nous essayons de nous battre depuis, je le disais tout à l'heure, les années 80, même la fin des années 70, sans jamais trouver de solution. Une fois, on tire sur un indicateur pour résorber les autres, et puis après, il faut faire le contraire, donc on ne sait plus où donner de la tête. Et on oublie trop souvent, à force de manipuler ces indicateurs, de ne raisonner qu'il y a des individus et des êtres humains derrière. Ce sont ces gens-là qu'on retrouve à la rue ou avec des revenus précaires. Et donc, je disais, les trois fléaux dont je parlais, que j'ai évoqués tout à l'heure, eh ben, je vais vous dire ce que c'est. C'est d'abord le chômage, ensuite il y a l'inflation, et puis ensuite il y a le déficit français. Le déficit français est toujours important. C'est ce qui fait, bien entendu, nous sommes tenus par les mesures de rigueur liées au maintien dans la zone euro. Et ce sont des mesures de rigueur qui sont en place depuis la fin des années, depuis les années 90. Enfin, on va même dire depuis 84. Il y a eu Mitterrand qui a été élu en 1981. C'était le grand renouveau de la gauche française qui enfin avait le pouvoir. Et puis, dès 1984, après les trois premières années dites de grâce, avec un accent circonflexe sur le A, présidentielle, on a eu droit des politiques de rigueur liées à la nécessité de respecter les critères de convergence de Maastricht. Et puis aujourd'hui, eh bien, on doit faire attention, on n'a pas une politique monétaire autonome, on n'a pas une politique financière autonome de moins en moins non plus, parce qu'il y a eu des mesures de central banking, c'est-à-dire de réglementation par les banques centrales des marchés financiers pour pas recommencer ce qui s'est passé en 2008 avec la crise de la spéculation liée à la spéculation, dite la crise des subprimes. Et on n'a pas non plus une autonomie budgétaire, il ne faut pas croire, hein, parce que si on veut, si on dépasse trop, si notre déficit est trop important et si l'État fait trop de dépenses, eh bien, tout de suite, on crie à la, on crie à la dépense inutile, parce que les États se doivent d'avoir des déficits qui sont, qui restent limités pour être en coordination avec les États des autres membres de la zone euro. Et on sait à quel point l'Europe et les institutions européennes et la Banque centrale européenne sont méchantes avec les États qui sont trop endettés. On voit bien ce que ça a donné en, en Grèce, où la Grèce avait un déficit très important et c'était un pays très endetté. Comme nous avons, devons limiter nos dépenses pour ne pas faire trop de création monétaire, nous ne pouvons pas, on n'a pas la possibilité non plus d'agir sur le levier monétaire en diminuant la valeur de la monnaie, en pratiquant une dévaluation, parce que pour la bonne raison que nous sommes dans l'euro, et donc on n'est pas en, dans un système de change flottant, on est dans un système de change fixe, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas l'autonomie de notre politique monétaire, mais on n'a pas non plus l'autonomie de notre politique budgétaire, puisqu'on ne peut pas emprunter à tout va et augmenter le niveau de l'endettement des ménages, de l'État et des entreprises, parce que ça aboutirait à faire de la création monétaire et on ne peut pas faire trop de création monétaire non plus. Et on voit bien comment la Grèce, qui était en déficit très élevé et qui était un pays très endetté, s'est fait serrer les pinces par l'Europe et comment elle a dû pratiquer des politiques de rigueur au détriment du bien-être de sa population. Beaucoup de gens disent qu'en Grèce, on se croirait dans un pays en sous-développement. Donc, tout ça, on oublie, mais on peut lutter contre ces trois fléaux, contre d'abord le déficit, je le disais tout à l'heure, un déficit qu'on se doit de juguler. Pourquoi le, pourquoi le déficit ? Bah, tout simplement parce qu'avec le revenu inconditionnel d'existence, on l'a évoqué l'autre jour, déjà on pratique des économies très 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 sérieuses en matière de coûts du système redistributeur. Parce que 800 euros par mois et par individu, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que ce que coûte actuellement la sécurité sociale. Et toutes les dépenses qui sont liées à la redistribution. Toutes les allocations familiales, les allocations chômage, les pensions de retraite, les pensions de vieillesse, toutes ces dépenses-là, eh bien, sans oublier le chômage, toutes ces dépenses-là, on peut largement les diminuer. Parce qu'on va les supprimer pour mettre en place, on l'a dit la semaine dernière, un seul revenu qui est de 800 euros par mois et par individu, de la naissance à la mort. Et ça, c'est très fort. Je vous laisse méditer cela. Nous allons écouter aujourd'hui, non pas de la musique, mais un sketch de Michel Colucci, donc de Coluche. C'était dans les années 80. Et ça s'appelle « La publicité ».
Alors voilà, il y avait un truc pendant que je suis à la télévision, parce que je suis pas souvent, c'est pas seul. M'en fous. Bah. Alors dis donc, je me disais, il y avait un truc, parce que j'avais fait un sketch, puis on ne l'a jamais fait à la télévision, justement, que c'est pour la télévision, puis c'était pour la publicité à la télévision. Alors figurez-vous, il y a beaucoup de publicité à la télévision, surtout pour la lessive. Vous avez vu, on doit en manger, parce qu'ils nous en vendent énormément, la lessive. Hein. Je ne sais pas si on est peut-être con, je ne sais pas. Alors, vous avez pas un Madame, oui. Je vois que vous avez acheté un baril d'Ariel. En effet. Si je vous le reprends et que je vous en donne deux, il n'y a rien d'écrit. Ah ben non. Vous voyez, il faut vraiment être con pour pas prendre deux barils à la place d'un. Hein. T'imagines la bonne femme qui dirait, ben merci vieux, salut. Hein, allez. Non, revenez là, c'est pas bon, coupez, on va la refaire. Ça fait rien, revenez là, c'est pas bon. Alors, vous avez par exemple, vous avez le nouvel homo, par exemple. Le nouvel homo, il lave encore plus blanc. Parce que l'ancien homo, il lavait blanc, si vous voulez, enfin, valait mieux changer. Quoi. Le nouveau, vraiment, il lave encore plus blanc. Alors, le nouveau, il lave encore plus blanc. Parce que blanc, moi, je sais ce que c'est comme couleur. C'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon, alors ça va, bon. Alors, le nouvel homo, c'est celui qui lave la tache qui est cachée dans le nœud du torchon. Non, je voudrais savoir si on est aussi con que ça. Alors regardez, c'est en vrai à la télé, hein, je n'invente pas. Il y a une bonne femme qui a un torchon avec une tache. Je ne sais pas comment ils font la tâche déjà. Peut-être ils se mettent à plusieurs, il y a des concours, ou alors ils... Je sais pas, ils ont une grand-mère très âgée, ou je ne sais pas, des animaux. Je ne sais pas, enfin vraiment une tâche, vraiment, ça n'arrive pas, quoi, vraiment, faut... Un torcher un éléphant, je ne sais pas. Dire un éléphant pauvre, hein, qui n'avait pas mangé, enfin, je veux dire, bon, enfin bref, on va pas non plus. Ben non, parce que là, ça va être, tiens, bon. Bon, alors écoute-moi. Je sais même plus ce que je disais. Bon, celui-là, qu'est-ce que je viens de dire? Et voilà, ils suivent pas, alors voilà. Bon, m'en fous, j'ai les noms de ceux qui font les cons, j'ai les noms. Ça va chier là-dedans. Bon, alors, vous avez, ah voilà, alors le torchon, alors elle a une otage, et alors il y a une bonne femme qui arrive dans le siège de la télé, et la bonne femme, elle sait même pas qu'il y a un nouvel homo. Elle est con, la voisine. Elle arrive, ah ben dis donc, t'as fait une grosse sèche sur ton torchon. Alors, ben, je m'en fous, j'ai mon nouvel homo. Et l'autre, elle sait même pas, il y a un nouvel homo. Quoi? Un nouvel homo? Et on me l'avait même pas dit, tout ça. Alors l'autre, elle dit, ben oui, regarde, je prends mon torchon, il y a un gros stage, je fais un nœud. Un nœud, en plus, du temps. Je fais un nœud, je le mets à la machine, je sors la machine, je défais le nœud, il n'y a plus la grosse tache. Et l'autre, elle est sciée. C'est aussi propre qu'avec l'ancien homo quand on faisait pas le nœud. C'est plus long, faut faire le nœud. Par exemple, celui qui a 5 kilos de linge, vous faites les nœuds le lundi, vous faites la lessive le mardi, puis après, t'as la semaine pour défaire les nœuds. Hein, parce que les nœuds qui ont été dans l'eau, bonjour. Hein. Bon. Alors, attends. Hey, alors, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a persil en tir à déposition. Voilà une lessive qu'elle est bonne. Comme lessive. Voilà une lessive qui est bonne. Elle est meilleure que les autres, elle est anti-redéposition. Et pourquoi elle est meilleure que les autres? On vient de vous le dire, elle est anti-redéposition. Il y en a 11 qui suivent. J'ai les noms, de toute façon. Je vais ramasser les copies. Bon. Elle est anti-redéposition. Alors maintenant, je pose une question. Qu'est-ce qu'ils font, les autres lessives? Qu'est-ce qu'ils font, les autres lessives? Les autres lessives, elles soulèvent la crasse qu'il y a dans les fibres. Elle lave la crasse dans les fibres, et après, qu'est-ce qu'elle devient, la crasse propre? Elle se redépose dans les fibres, on vient de vous le dire à l'instant. Eh bien, que persil en tir de déposition, non! Persil en tir de déposition, elle soulève la crasse dans les fibres, elle lave la crasse dans les fibres, et après, elle la retient avec ses petits bras musclés. Et avec le pied, elle tape dans la machine. Enlevez-la, je tiens la crasse! Alors, la mère de nuit arrive sur sa tornade blanche. Oh, doucement la tornade, oh. Tu me la tiens, Sardou, la tornade, oh. Alors, la mère Denis arrive, poussant son célèbre cri, mère Denis.
Voilà, c'était... Bonjour, on n'a pas tout passé, on s'est arrêté à la mère Denis, voilà. C'était Coluche, son sketch, la publicité, qui a fait beaucoup de... qui a beaucoup amusé les gens et qui nous amuse toujours avec justement cette fameuse, ces fameux paquets de lessive, alors que justement aujourd'hui on se dit ce que, qu'il faut qu'on fasse sur le plan politique et économique, ce que Coluche avait essayé de faire dans les années 80 avec Thierry Leluron en se présentant au présidentiel. Il voulait faire en quelque sorte, il ne le disait peut-être pas explicitement, la grande lessive. Or, avec ses, et ses, son sketch est vraiment symbolique là-dessus. Et effectivement, c'est, on doit s'attendre aujourd'hui à faire une grande lessive si on veut que notre société puisse continuer à évoluer dans le bon sens. Et si on ne veut pas tomber soit dans un capitalisme à tout craint, où il n'y a plus d'humanité et plus d'individus, au pluriel, alors que nous sommes dans une société des individus, c'est évident. Et puis, d'un autre côté, on a aussi le choix dans l'anarchie, mais enfin une anarchie de bas étage avec de la violence et la loi du plus fort. Moi, en ce moment, je crois qu'on est un peu en train de vivre un petit mélange des deux et c'est pas marrant. Donc c'est pour ça que je pense que la grande lessive, ça fait toujours du bien de tout laver, de rendre tout propre. Et peut-être même que Monsieur Saint-Marc, là-haut, là je pense à la lessive, c'était une petite anecdote, j'essaye de faire comme Coluche, finirait peut-être par descendre sur terre pour nous aider à finir le boulot, si on s'y met. Donc voilà. Alors, j'étais en train de parler tout à l'heure du déficit de l'État français et je vais vous lire, je vais vous donner des chiffres qui sont intéressants parce que ça nous permet de nous représenter exactement à quel point cette mesure du revenu inconditionnel d'existence peut être positive et salvatrice pour notre budget national. Alors, en 2016, les chiffres du budget ASSO, donc le budget ASSO, c'est ce qui correspond aux dépenses de sécurité sociale dans le budget de l'État, A2SO. Le coût total du budget ASSO, c'est-à-dire le coût total des dépenses de redistribution, s'évaluait à 729 milliards 60 millions d'euros. C'est-à-dire que ça représentait à peu près 58% de la dépense publique, au titre de la vieillesse, de la maladie, de l'invalidité et de la famille. Chaque année, le chiffre augmente. Ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, on est en 2019. Bon, on n'a pas encore les chiffres de 2019. Mais en 2018, je vous donnerai le chiffre tout à l'heure. Je ne l'ai pas sous les yeux. Mais en tout cas, on peut s'attendre à peu près à 800 milliards d'euros et quelques. Alors qu'en 2016, on était à 729 milliards 60 millions. Et puis, en ce qui concerne le revenu inconditionnel d'existence, je vais vous dire combien il coûterait. Il coûterait, et là j'ai compté, parce que là, en fait j'évoque un passage d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Revenu inconditionnel d'existence, budget et fiscalité ». Pour le calculer, alors c'est vrai que j'ai pris pour le déficit français les chiffres de 2016, j'essaye de le réactualiser chaque année, mais en statistique, la différence entre 2016 et 2018 n'est pas si grande que ça, même si, comme je le disais tout à l'heure, le déficit a sûrement encore augmenté. Mais on peut à peu près se fier à ces chiffres. Après, j'ai calculé, dans mon livre, j'ai calculé aussi ce qu'allait coûter le revenu inconditionnel d'existence. Donc, je suis partie de la population totale, puisque le revenu inconditionnel d'existence, c'est pour tout le monde sans exception, de la naissance à la mort. Et puis, sachant que les enfants reversent une partie, donc j'ai fait la distinction entre les gens de plus de 19 ans et les gens âgés de moins de 19 ans. C'est-à-dire que l'année de ses 18 ans, on reverse encore. On reverse encore une partie, je disais la semaine dernière, on reverse 500 euros et on garde 400. Et donc, en 2017, 24% de la population sera âgée de moins de 19 ans. En 2017, 24,5% de la population était âgée de moins de 19 ans. Et donc, il reverserait au total, je multiplie 16 464 000 individus de moins de 19 ans par 400, c'est-à-dire ce qu'il touche, et non pas par 800, puisqu'on ne compte que ce qu'il touche, puisque le reste, il le reverse. Et puis après, il y a la population âgée de plus de 19 ans. Donc en 2018, ils étaient 50 736 000. Et donc au total, ça coûterait à l'État, le revenu inconditionnel d'existence coûterait à l'État 566 milliards 92 millions 800 000 euros. Ça veut dire, ça fait une grosse différence avec le chiffre avec le coût total des dépenses de redistribution qu'on évoquait tout à l'heure, de notre système redistributeur qui est devenu un peu archaïque. Parce que lui, il s'évalue à peu près à 729 milliards 60 millions d'euros. Et là, on passe à une dépense de 566 milliards 90 millions 800 000 euros. Ça fait une différence de pas entièrement 200 milliards d'euros, mais pas loin. Et donc, c'est très intéressant. On voit bien ici que déjà, l'État gagne de l'argent au lieu d'en perdre. Et au lieu de dépenser une somme énorme et d'avoir un déficit énorme pour un résultat moindre, puisqu'on a déjà évoqué tous les inconvénients de notre système redistributeur actuel, qui fait beaucoup d'insatisfaits, en témoignent les mécontents d'aujourd'hui, eh bien, on pratique une économie substantielle en réformant tout cela, en supprimant ces 729,60 milliards d'euros dans la dépense de l'État et en la remplaçant pour une autre dépense qui est beaucoup plus égalitaire, qui est riche en réformes, qui génère des réformes, qui est riche parce qu'elle correspond à la volonté et au désir des individus d'être libres et créatifs et qui coûte beaucoup moins cher. Et c'est parce que près de 200 milliards d'euros, c'est vraiment pas négligeable par rapport au budget de l'État. Donc c'est pour ça que je pense que cette mesure du revenu inconditionnel d'existence est une mesure qui me paraît indispensable. Je ne pense pas qu'on puisse se passer de cette mesure-là. Je pense que si on s'enferme dans des réformettes à nouveau qui vont essayer de tirer des ficelles pour en écourter d'autres, eh bien, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas fonctionner longtemps et on va se faire supplanter, on va arriver à un système, il n'y aura plus de gouvernance française. L'État français va disparaître et on tombera dans ce système exacerbé dont je parlais tout à l'heure, d'hypercapitalisme d'un côté et d'anarchie complète, totale, dans la violence pour les autres. Et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Donc je pense que c'est très important que cette mesure-là, elle est importante. Je pense qu'on ne devrait pas passer à côté. Là, je viens de regarder le déficit français en 2018. Il était de 76,1 milliards. Il était quand même très élevé. Donc, je vous parle du déficit. Hein, je ne vous parle pas du coût du système de redistribution. Il faudrait que j'aille regarder. Et ben, en tout cas, le déficit français atteignait quand même 76,1 milliards en 2018. Voilà. Donc, chaque année, il s'aggrave. Chaque année, il se creuse. Et c'est en partie lié à notre système de redistributeur qui est archaïque. Il faut savoir que non seulement notre système redistributeur actuel coûte beaucoup d'argent, sans un bon résultat sur le plan sociétal et économique, bien sûr, mais qu'en plus, il génère des coûts de transaction, c'est-à-dire des effets non négatifs non voulus, qui se répercutent sur la société et sur notre économie et qui génèrent eux aussi des coûts. Donc ça ne coûte pas que 729 milliards d'euros, ça coûte beaucoup plus que ça. Alors que le revenu inconditionnel d'existence supprimerait tous ces coûts de transaction. Donc ça, c'est pour le déficit, nos déficits. Et puis ensuite, eh bien, il n'y aurait pas d'inflation, no inflation. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que si on met en place le revenu inconditionnel d'existence, nous allons pouvoir, nous n'aurons pas besoin de faire des dépenses trop coûteuses et d'endetter davantage l'État, quoique étant dans le système euro, on ne peut pas non plus reprocher à notre système d'être un système inflationniste qui crée de la monnaie à tout va, puisqu'on est quand même limité. Je le disais tout à l'heure, on n'a pas d'autonomie budgétaire et monétaire, mais quand même, imaginons qu'on sorte de l'euro un jour, le fait qu'on ait mis en place le revenu inconditionnel d'existence se doublerait d'un système non inflationniste, c'est-à-dire qu'on ne laisserait pas les prix augmenter n'importe comment, parce qu'on serait obligé d'avoir un budget qui fonctionne bien. Et on ne pourrait pas non plus se permettre de créer de la monnaie à tout craint non plus, de peur de voir notre monnaie se dévaluer de manière trop importante. Donc parce qu'on aurait l'obligation de mener notre barque de manière relativement responsable. Or, si on laisse une monnaie trop se dévaluer par rapport aux autres, ça a à court terme des conséquences intéressante parce que ça permet d'être plus compétitif sur les marchés extérieurs. Mais ça marche pas à tous les coups parce que d'abord, il faut pouvoir présentée sur les marchés à l'exportation, il faut pouvoir présenter des produits originaux que les autres États ont envie d'acheter. Et puis, en plus, il y a une grosse concurrence avec des pays qui ont des monnaies qui, elles, sont déjà très faibles. Et donc là, c'est difficile, même en pratiquant une dévaluation, même avec une monnaie dépréciée, et en jouant avec une inflation, et donc avec en contrepartie une inflation forte. Aujourd'hui, avec tous ces pays-là, c'est difficile de rester compétitif sur les marchés, même avec tout ça. Donc je pense qu'il ne faut plus compter là-dessus pour permettre à l'État de remplir ses caisses, ni pour permettre à l'État de fonctionner correctement. Et puis, en plus, on ne peut pas non plus... en plus, c'est que du court terme, en plus, l'effet compétitivité, parce que à long terme, on y perd beaucoup parce qu'on achète beaucoup aux pays extérieurs et ça nous coûte plus cher. Et ça contribue à alimenter encore davantage la hausse des prix. Donc, oublions cet argument-là. Et puis, troisième... item important, troisième fléau français. Alors, je parlais de l'inflation tout à l'heure parce qu'il y a eu une période où l'inflation était très forte en France. Il y avait une flambée des prix perpétuelle et on devait toujours lutter, la Banque centrale française, avant d'être insérée dans l'intégration monétaire européenne, pratiquait beaucoup les modifications du taux d'intérêt et essayait de relever ses taux directeurs de façon à ce que le franc ne se dévalue pas trop. On a notamment eu des crises en 92-93 parce qu'il y avait eu des fortes attaques sur le franc, des fortes attaques de la spéculative. Et donc, à l'époque, c'était vraiment un fléau très important, l'inflation, parce que ça réduisait beaucoup le budget des ménages, mais également ça portait atteinte au taux d'investissement des entreprises. Et donc à l'activité en général, à l'activité tout entière. Pourquoi ? Parce que quand les prix augmentent, bien entendu, les agents économiques investissent beaucoup moins ou consomment moins, et donc ça désincite les entreprises à travailler, et donc à employer. On en arrive à notre troisième fléau français, qui est le fléau du chômage, le no unemployment, c'est-à-dire que, je l'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, on le sait, c'est là où un de nos fléaux a pratiquement disparu, l'inflation, quoique certaines personnes parlent encore d'une augmentation des prix qui est liée, c'est l'effet euro, mais enfin bon, c'est quand même un phénomène qui est devenu beaucoup moins conjoncturel, beaucoup moins imprévisible qu'avant l'euro. Et qui pourrait revenir si on sortait de l'euro. Mais par contre, le chômage, le unemployment, c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient souvent. Et aujourd'hui, c'est un des principaux problèmes de notre économie. Alors, bien entendu, il y a du chômage, il y a des gens qui cherchent des emplois qui n'en trouvent pas. À Pôle emploi, c'est plein. Mais il y a quand même, mais le plus gros du problème, c'est qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande de travail. L'offre de travail en économie émane des ménages et la demande de travail émane des entreprises. C'est le contraire sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi, l'offre d'emploi émane des entreprises et la demande d'emploi émane des ménages. Et c'est bien le contraire de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que des fois on confond. Donc je parle bien des notions économiques de offre et de demande de travail. Il y a une inadéquation entre les deux, parce que les gens sont en attente d'un certain type d'emploi et puis ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Avec parfois pour certains un certain type de revenus. Et il y a une inadéquation parce que certaines personnes sont déçues parce qu'elles ont investi dans les études et dans leur formation par elles-mêmes et elles ne trouvent pas d'emploi qui corresponde à leurs attentes. Donc c'est pour ça que je parlais d'inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Et puis inadéquation aussi parce que les aspirations des individus vont aujourd'hui vers moins de travail et plus de revenus, mais un revenu qui ne serait pas limité uniquement à un revenu financier ou monétaire. Un revenu qui peut aussi se calculer par l'émergence d'une certaine forme d'économie informelle. Par exemple, on pense à un revenu qui est lié aux effets d'agglomération. Quand on vit dans une grande ville, on a à sa disposition beaucoup d'infrastructures, avec souvent beaucoup de gratuits ou du semi-marchand, c'est-à-dire à mi-chemin entre le secteur privé et le secteur public. Souvent, c'est associatif. Et le semi-marchand, souvent, c'est beaucoup... Il y a des prestations de services issues du semi-marchand qui sont très bonnes, équivalentes au secteur privé, et qui sont beaucoup moins chères et accessibles à tous. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un effet d'agglomération, c'est-à-dire un revenu supplémentaire que les ménages et les individus, les ménages, les entreprises, les acteurs de l'économie, les banques aussi, se partagent, mais qui n'est pas quantifiable sur le plan monétaire. Mais c'est aussi une forme de revenu. C'est tout nouveau, on vient tout juste de s'en rendre compte. Ça vient tout juste d'apparaître dans les théories économiques. Et bien entendu, il y a des gens qui le calculent déjà, mais ces calculs-là ne sont pas encore officiels. Ça n'apparaît pas encore sur les grands tableaux de la comptabilité nationale. Mais quand même, on commence à en tenir compte. Donc c'est un revenu qui est différent du salaire, mais qui existe. Et puis, il y a toutes sortes d'autres formes de revenus qui sont parfois informelles. Et puis, parfois, ça veut dire qu'elles sont issues uniquement de la société civile et du fonctionnement social. Et puis, parfois, elles sont formelles, c'est-à-dire elles sont issues du système économique lui-même. Voilà. Donc, cet effet revenu est important et... C'est pour ça que je parlais. Donc, c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner le chômage, mais également le déficit ou l'inflation dans les mêmes termes que ce qu'on a fait dans les années 80, et se contenter de prendre ces trois indicateurs comme des indicateurs de conjoncture qu'on pourrait manipuler à notre guise, sachant qu'on peut de moins en moins le faire dans le contexte européen. On se doit de les considérer autrement et de les associer à d'autres phénomènes économiques et sociétaux qui sont apparus, qui sont récents, qui sont liés à la modernité, à l'augmentation des infrastructures, à la diminution de certains coûts importants, par exemple je pense au coût des transports, et tous ces effets-là contribuent à dessiner notre société, notre économie actuelle. Et notre société et notre économie actuelle est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne le croit. Elle ne se limite pas au clivage marchand et non marchand. Et donc voilà, ça c'était pour le chômage. Alors pourquoi est-ce que le revenu inconditionnel d'existence permet de diminuer le chômage ? Bah, tout simplement parce que si chacun a 800 euros de plus par mois, je pense à un couple, imaginez un couple, le papa, la maman et les trois enfants. Et les trois enfants qui ont moins de 19 ans. Le papa et la maman, ça fait déjà 1600 euros. Et puis les trois enfants, ça fait 4 fois 3, 12, 1200. Ça veut dire que à eux tous, ils touchent 2800 euros de plus qu'avant, sans travailler plus. Ça, c'est super, parce que Martine Aubry avait commencé à le lancer dans les années 90. C'est elle qui a mis en place les 35 heures. C'était à la fois une réforme qui était dans l'air du temps, mais qui était une réforme courageuse, parce que beaucoup sont hérissés contre cette réforme. Et c'est bien entendu, à nouveau, le lobby des grandes entreprises et des grands monopoles qui a supplanté le marché. Et qui a supplanté le marché politique, j'allais dire, c'est-à-dire le marché des réformes politiques. Et on a complètement démantelé la réforme des 35 heures de Martine Aubry. On ne l'a pas laissé... On n'a pas su mener cette réforme dans toute son ampleur parce qu'on l'a considérablement racornie, même si aujourd'hui les 35 heures c'est la durée hebdomadaire du travail, mais normale et légale. Mais cela dit, on n'a pas su mettre en place cette réforme dans toute son ampleur en modifiant l'organisation du travail dans les entreprises en fonction. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est toujours les mêmes qui travaillent. On demande, il y a des gens, souvent font plus de 35 heures, ils font des heures supplémentaires. Et puis, il faut bien le dire, que ce soit dans le secteur marchand ou non marchand, c'est-à-dire dans le secteur de la fonction publique, puisqu'aujourd'hui, il y a crise dans le secteur de la fonction publique, on l'a dit l'autre jour, avec une remise en question, Et puis, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, il faut bien reconnaître qu'on assiste à ce phénomène que, comme il y a du chômage, on fait pression sur les gens. Et donc, souvent, les gens travaillent plus que ce qu'ils devraient travailler. Parce que à deux, on pratique la méthode du deux tiers. Quoi. C'est-à-dire, deux personnes font le travail de trois. Et ça, c'est valable aussi bien dans le secteur privé où on fait du chantage parce qu'on a peur du chômage, aux gens parce qu'ils ont peur du chômage, que dans le secteur public où on fait du chantage aux gens en leur disant que la fonction publique, c'est fini et qu'on va supprimer des postes de fonctionnaires. Donc ça ne va pas, ça ne se passe pas bien sur le marché du travail. Je pense que les gens qui sont à Pôle emploi doivent bien le remarquer. Et donc c'est avec le revenu inconditionnel d'existence, tout ça c'est fini. J'ai parlé tout à l'heure d'un supplément de revenu de 2600 euros pour une famille de 3 enfants, c'est beaucoup. Ça va permettre enfin, déjà ça va considérablement améliorer la qualité de la vie, et puis peut-être que l'un des deux conjoints va arrêter de travailler, ou peut-être même que les deux vont se mettre à mi-temps. Et donc ils auront plus de temps pour s'occuper de leur famille, et ça ne veut pas dire qu'à côté ils feront rien, ils s'investiront dans le milieu associatif, certains monteront leur entreprise, certains iront se promener, certains se mettront à peindre, ça va être le cas pour tous les Français, et ça c'est vraiment pas négligeable. Et donc du coup on arrivera enfin à mettre définitivement en place cette mesure consistant à diminuer le temps de travail et à modifier le rapport et l'enjeu du travail dans une société où ce dernier n'est pas en désuétude, certes, mais où il est moins central que dans les années 40-50 ou que dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, ce n'est plus la valeur travail. C'est pour ça qu'il y a une déconnexion entre la fonction dont la société et l'économie fonctionnent, parce qu'elles fonctionnent encore sur les vieux items, et puis, la société française, les gens. Parce que les gens, aujourd'hui, la valeur, c'est l'activité. Il n'y a pas que le plaisir, bien entendu, mais les gens ont envie de mener des activités, d'être créatifs, de créer de la valeur ajoutée positive. Et ils se heurtent à l'obligation d'avoir un travail qui leur prend beaucoup de temps, qui souvent n'est pas suffisamment payé. Et donc, forcément, il y a des déceptions et des gens qui ne sont pas contents de la vie qu'ils ont. C'est normal. Voilà. Donc c'était, mais en même temps, ils ne peuvent pas faire d'autre choix parce que pour vivre avec un RSA, c'est pas évident. Et puis en plus, le RSA, on demande en échange d'avoir une activité assez importante sur le plan administratif, la paperasse, et puis sur le plan de la recherche d'emploi. Et ça, tout le monde ne l'accepte pas. Alors que le revenu inconditionnel d'existence laisse vraiment les gens libres de leur choix. On leur dit: on est content que vous existiez depuis que vous êtes né. Donc, vous sentez-vous aimé. On vous donne 800 euros et vous faites ce que vous voulez de votre vie. C'est déjà un bon point de départ dans une société où jusqu'ici, on a eu des gens qui étaient satisfaits, qui parfois étaient protégés dans un cadre familial, et d'autres qui se retrouvaient un peu seuls avec des parcours de vie souvent parfois brisés ou en difficulté et qui, eux, ne disposaient pas de revenus. Et donc, souvent, avec injustice, inégalité et donc fracture sociale, pour reprendre un vieux mot. Donc voilà pourquoi le revenu inconditionnel d'existence peut vraiment faire du bien à notre économie. Il met fin à des décennies et des décennies de difficultés sur le plan des choix à faire sur le plan social et économique. Des difficultés qui sont liées à une conception archaïque, il faut bien le reconnaître, et une interprétation archaïque de notre fonctionnement. On ne parlera dès lors plus de chômage, d'inflation et de déficit, no unemployment, no deficit, no inflation, si on met en place le revenu inconditionnel d'existence. Voilà, alors... Il y a bien entendu, ça fait 3 émissions que je parle de ça, donc je pense qu'on a à peu près évoqué toutes les réformes qui étaient nécessaires, mais on en a oublié beaucoup. Sur la fiscalité, j'ai pensé qu'une taxe sur les biens communs, ça pouvait être intéressant. Pourquoi une taxe sur les biens communs ? Parce qu'aujourd'hui, il y a la notion de bien commun qui apparaît de plus en plus. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des revenus supplémentaires qui ne sont pas encore comptabilisés dans la comptabilité nationale, mais dont chacun dispose. Et disposer d'un espace vert à côté de chez soi ou respirer un air pur et frais, ça fait partie, c'est une forme de revenu. C'est une forme de revenu, un type de revenu que l'on peut qualifier de revenu complémentaire, de revenu informel. Et tout ça, ça participe d'une assiette commune qu'on appelle les biens communs. L'environnement, les infrastructures d'une ville, tout ça, ce sont des biens communs. Je pense que cette notion de bien commun devrait être constitutionnalisée et qu'on devrait la protéger et même qu'on devrait, pourquoi pas, faire payer aux gens chaque année une petite somme qui ne serait pas trop élevée mais qu'on appellerait taxe sur les biens communs. Ça permettrait aussi aux gens de se rendre compte qu'il y a des biens communs qu'on partage, qui ont un effet revenu important, un effet revenu supplémentaire important, et que ces biens communs sont des biens qu'on se doit tous entretenir. Et comme l'État joue un rôle important dans l'entretien de ces biens communs, pourquoi ne pas le rémunérer pour cela ? Mais c'est à réfléchir. Enfin, je voulais terminer en parlant de la fonction publique et de l'éducation ainsi que des hôpitaux. Alors bien entendu, aujourd'hui c'est d'actualité. Je viens d'apprendre aujourd'hui, dans le Figaro d'aujourd'hui, que l'État français n'allait plus, que le gouvernement avait décidé d'abandonner son projet de suppression de postes de fonctionnaires, d'un certain nombre de postes de fonctionnaires. Donc là-dessus, c'est quand même quelque chose de positif, sachant que le 9 mai prochain, donc ce jeudi, il y a une manifestation et une grève très importante. Cette fois-ci, pas des gilets jaunes, mais pour défendre la fonction publique. Et j'ai fait l'apologie de la fonction publique il y a une ou deux émissions, mais c'est pas pour rien, c'est parce que sans la fonction publique, il n'y a pas d'État. Et je pense bien au contraire qu'au lieu de diminuer la fonction publique, il faut l'augmenter. Il ne faut pas laisser le secteur privé s'immiscer dans la fonction publique, que ce soit en pratiquant de la sous-traitance, que ce soit en pratiquant, en laissant des personnes... les administrations pratiquer le contrat privé en embauchant des gens en contrat à durée déterminée ou indéterminée, parce que normalement, dans la fonction publique, on remplit une mission de service public et on doit passer un concours pour entrer dans la fonction publique. Il y a un principe qui s'appelle le principe d'égalité des citoyens dans l'accès aux emplois publics. Et donc, ce principe-là n'existe pas pour rien. C'est un principe, je crois que c'est un principe général du droit. Et c'est un principe qui est très important et qui protège la mission de service public. S'il n'y a plus de mission de service public, ce ne seront que les grandes entreprises, les grands monopoles qui joueront ce rôle social et le joueront très très mal. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont une logique de rentabilité. Donc, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne pourra pas fonctionner... Bien entendu, on peut avoir des écoles excellentes quand il faut payer 20 000 euros pour une scolarité d'un an dans une école. On peut se permettre, mais est-ce que notre but, sur le plan de notre projet français, est-ce que vous pensez que c'est vraiment est-ce que vous pensez vraiment qu'il consiste à éduquer uniquement 3% de la population en âge d'être en scolarité française. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment le but de la nation française, de cette fameuse nation française censée élaborer un projet politique et économique à long terme. Donc c'est pour cela que je pense que la fonction publique est indispensable et que, bien au contraire, au lieu de coûter de l'argent et sans avoir un rôle suffisamment efficient dans la société, elle peut être le point de centralité de notre efficience et permettre de sérieux gains en coûts de transaction, parce que une société qui est en mal gouvernance, où il y a des inégalités, c'est une société où il y a des coûts de transaction et là où on croit faire des économies, souvent ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc je pense que c'est vraiment indispensable la fonction publique. Alors, on pourrait faire une émission spéciale dessus. Je ne vais pas m'éterniser sur la fonction publique aujourd'hui. Ce n'était pas notre propos. Mais je voulais juste insister dessus. C'est que si on met en place la mesure revenu inconditionnel d'existence, je pense qu'il faudra revaloriser la fonction publique, c'est-à-dire lui redorer le blason et embaucher de nouveaux fonctionnaires. Par exemple, là, je passe à notre système d'éducation. Notre système d'éducation est un système qui est vraiment en péril. On ne se rend pas compte souvent à quel point le système éducatif français est en péril. Et c'est principalement lié non pas à une incompétence des gens qui y travaillent, mais simplement à un manque de moyens. Dans les lycées, dans les collèges, là où on devrait avoir besoin d'encore plus de monde qu'avant, parce que les familles sont parfois déstructurées, parce que les intérêts des jeunes étudiants du collège jusqu'à l'université partent souvent sur Internet, sont abrutis par l'information et par les sollicitations, parce que ces gens-là ont encore plus besoin d'être encadrés que dans les années 50, on a encore besoin qu'il y ait de nouveaux métiers qui se créent. Alors je pense au métier de surveillant. Le métier de surveillant, c'est un bien beau métier, mais ce sont souvent des étudiants qui sont là pour un moment provisoire et qui ne remplissent pas vraiment une mission de service public, puisque de toute façon, ils ont des contrats privés. Ils sont là pour faire leur taf, pour gagner un peu d'argent, et puis après, ils repartent. Moi, je pense que c'est une fonction qui devrait être professionnalisée. De même que je reste persuadée que au-dessus de 12 à 13 élèves, on ne peut rien faire dans une classe aujourd'hui. Dans les années 30, quand il y avait un grand silence de mouche et quand l'instituteur passait dans les rangs en tapant tout ce qui dépassait, y compris les mains ou les coudes avec une règle, et parfois il tapait fort, effectivement, certes, dans ces conditions-là, on pouvait encore se vanter d'avoir des classes nombreuses, entre 30 et 40 élèves. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Même à 12 élèves, c'est dur. Donc je pense vraiment 12, c'est la limite. Je pense, si ça n'a pas changé, c'est la limite avec laquelle on peut partir tout seul, en tant qu'adulte, avec ses étudiants ou ses élèves, en visite. Donc, comme aujourd'hui, les publics sont difficiles dans beaucoup d'établissements, je pense qu'on devrait faire pareil en classe. On ne devrait pas laisser un professeur tout seul avec ses élèves, avec plus de 12 élèves. Parfois, les professeurs sont en danger dans certains cas, au pire des cas. Mais dans la majorité des cas, ils ne sont pas en danger, mais ils ne peuvent pas faire cours. On fait cours, quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est difficile de faire travailler les élèves aujourd'hui, et ça, on ne veut pas s'en rendre compte. Donc comme on est dans un système où notre éducation est remise en cause, personne ne dit rien, mais ça ne se passe pas bien. Donc je pense vraiment qu'il faut faire quelque chose pour réinvestir, augmenter les budgets dans l'éducation, mais aussi, et je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, pour les hôpitaux. Donc la santé et l'éducation. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui, nous parlerons des hôpitaux et reparlerons aussi de l'éducation. La semaine prochaine, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Merci. Je remercie aussi Sidi pour son appui sur le plan technique. Et puis je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission en podcast sur le site de Radio Galère ou l'écouter demain matin en rediffusion de 7h à 8h sur 88.4. Merci encore. Au revoir. Thank you.